quand le van, le minivan a démarré, j'ai commencé à pleurer. J'ai dit que je voulais pas partir. Mon frère, il a pas dit un mot. Je n'avais jamais pris l'avion, donc je savais pas qu'on rentrait par un sas. On met la ceinture de sécurité, l'avion décolle, je pleure encore plus fort. Je me dis, 4 ans, ça va être une éternité pour moi.
Quand Yuli grimpe pour la première fois dans un avion en direction de la France, elle a 11 ans. Ça fait des mois qu'elle attend que sa mère vienne la chercher dans l'orphelinat où elle a été placée. Elle lit ses lettres, reçoit ses petits cadeaux et continue d'espérer. Un jour, une dame d'une agence d'adoption, la Holt, est venue la voir. Yuli et son frère ont reçu un costume, un numéro et ils ont appris qu'ils allaient partir en France. Là-bas, ils seraient accueillis par une nouvelle famille. Alors elle a passé une dernière journée en Corée avec ses grands-parents avant de monter dans la voiture qui l'a emmenée vers l'aéroport. Elle a regardé ses grands-parents lui dire au revoir et leur image s'éloignait petit à petit. En quittant la Corée du Sud, on leur a fait une promesse à laquelle elle et son frère vont s'accrocher. Ils seront de retour dans 4 ans, en 1988, pour les Jeux Olympiques de Séoul.
Les mondes de Yuli, épisode 2, l'enfance brisée.
L'avion redémarre, je sais pas, au bout de 12 heures ou quelque chose comme ça, ça y est, on est arrivé à Paris. Et on a suivi les deux escortes qui avaient les bébés, 3 bébés chacun, plus nous, on tenait la main. Et là, on arrive dans une pièce où je n'avais jamais autant vu des étrangers. On avait l'impression d'avoir atterri sur une autre planète. Moi, je n'ai pas voulu lâcher la main de mon escorte. Parce que c'était mon seul lien qui me retenait à la Corée, quoi. Il m'a pris la main, et puis quand mon père adoptif s'est présenté, il a donné ma main à la main de mon père adoptif. Et là, il m'a regardé d'une manière dont aucun homme dans ma vie m'avait regardé comme ça. J'ai senti une peur comme un animal qui était chassé. Et j'ai essayé de revenir vers l'escorte et lui dire que j'avais peur. L'escorte ne parlait pas coréen. Personne ne parlait le coréen à l'accueil. Donc on suit nos parents adoptifs. On passe la première nuit à Ivry-sur-Seine chez un oncle et une tante qui avaient des enfants qui étaient un peu plus jeunes que nous. Ils étaient très gentils. Et le lendemain matin, à 8h, on prend la route. On n'a pas compris pourquoi on faisait tant de kilomètres. Si on est arrivé à Paris et qu'on vit à Paris, pourquoi on prend la voiture et le voyage et on a été tous les deux malades. Mon frère a vomi sur le siège. Mon père adoptif a garé la bagnole au bord de la route et on n'a pas compris ce qu'il nous a dit, mais c'était pas très gentil. Il a foutu une claque à mon frère et il l'a attrapé genre en lui disant de nettoyer, de lécher le vomi. Et mon frère commence à pleurer. Je lui dis « Tu ne le fais pas, je vais le faire ». Donc, moi, j'essaie de ramasser le vomi, la ville, avec ma main. Et là, dans ma tête, bon, il faut absolument que quelqu'un vienne nous sauver d'ici, parce que j'ai l'impression qu'on est tombé sur des gens qui sont pas normaux, quoi. On continue le voyage. Ils nous offrent des sandwichs au jambon-beurre. Et le beurre, pour nous, c'était écœurant. C'est quelque chose qu'on n'avait jamais mangé dans notre vie. Et on essaie de l'enlever, parce qu'ils avaient mis une couche mais énorme. Nous, on essaie de l'enlever, même le jambon, pour nous, ça sentait trop la viande. On voulait juste manger le pain, et ils nous ont forcé à manger le sandwich. Et les gens, on a compris, tant que t'as pas fini ton sandwich, on part pas. disais à mon frère, essaie de dormir, mets ta tête sur mes genoux et dors. Je te réveille quand ce voyage se termine, je ne sais pas où. Et on arrive le soir, il faisait nuit. C'était le 2 juin, chez la grand-mère maternelle de mon adoptante. On a mangé une soupe au vermicelle qui n'avait aucun goût pour nous, parce que c'était pas épicé, c'était pas assez salé. Du coup, il nous propose du poivre. On a mis du poivre partout. C'était la seule façon de pouvoir manger quelque chose. On mettait du poivre partout. Bon, bref, on mange une soupe, et puis on rentre, on arrive dans leur maison énorme, à 2 étages. La maison typique des années 60, fin 70, début 80, avec le salon à l'étage, les chambres en bas, le couloir, l'escalier, et des croix partout. Donc je comprends qu'ils sont religieux, mais je pense qu'ils étaient protestants, parce que ici je connaissais des protestants, mais pas de catholiques. Bon, je me suis dit, ils sont très religieux, nous on ne l'est pas.
Avant que Yuli poursuive son histoire, je dois vous prévenir que les minutes qui viennent contiennent des descriptions de scènes de viol, d'agressions sexuelles pédophiles. Si vous ne voulez pas les entendre, vous pouvez avancer de 4 minutes.
Le lendemain, dans leur lit conjugal, ils nous invitent à faire un câlin, tous les quatre au lit. Et moi, je devais m'allonger à côté de mon père adoptif au bord du lit. Mon frère, de l'autre côté, à côté de ma mère adoptive. Là, je sens un truc dur sur ma cuisse. Je suis terrifiée. Je ne sais pas ce que c'est. Et après, je sens une main qui frotte l'entrejambe et puis j'essaie de serrer mes cuisses. Et il essaie d'écarter. J'étais traumatisée. Je ne savais pas ce que c'était. Et après, ma mère adoptive est retournée au travail très rapidement. Elle n'avait pas pris de congé maternel. Lui avait pris un congé de paternité. Donc on a passé tout l'été avec lui. Le lendemain, ça a recommencé. Là, il a pris ma main sur son sexe et il avait mis sa main sur ma main et en train de me forcer à le masturber, quoi. Et en même temps, l'autre main, il l'avait glissé dans mon slip et je serrais mes cuisses, mais il arrivait à me doigter, quoi. Et j'ai senti une douleur que je n'avais jamais sentie depuis ma naissance. Et je me suis dit, il est en train de me faire quelque chose de pas normal. Et puis après, je pleurais et lui disais, sois gentille, sois gentille, sois gentille. À l'époque, j'écrivais en coréen un journal intime. J'écrivais ce qu'ils appellent Yusa, c'est la dernière lettre qu'on laisse avant la mort. Et je demandais à ma grand-mère, à ma mère, à mon père, à mon grand-père, pardon, mais je n'ai plus envie de vivre. J'ai perdu mon hymen en moins d'une semaine de mon arrivée. J'ai senti une douleur atroce et après, j'ai été aux toilettes et j'ai vu un truc transparent, comme une peau morte, quoi. Mon slip était taché de sang, mais du sang vraiment rouge, comme si c'était une blessure, quoi. Je saigne parce qu'il m'a fait du mal. Je réalise tout de suite qu'il y a quelque chose qui ne va pas du tout, parce que ce qui me fait... Ça me fait du mal, et plus j'avais le corps d'une gamine de 7 ans. Je mesurais 1m26, je pesais 25 kilos, parce que j'avais souffert de la malnutrition.
Mmh. Yuri m'a raconté plusieurs fois son histoire, à chaque fois avec la même précision déconcertante. Longtemps, j'étais persuadé que cette violence sans nom, elle s'était abattue sur elle sans raison, qu'elle avait juste pas eu de chance. Et puis au fil de mes reportages, j'ai compris que c'était loin d'être la seule adoptée à avoir vécu ce traumatisme abject. Plusieurs femmes adoptées m'ont parlé des violences pédophiles qu'elles ont subies à l'orphelinat ou chez leur adoptant. J'ai découvert que la prédation sexuelle sur mineurs est omniprésente dans l'histoire de l'adoption d'enfants sud-coréens à l'étranger. Le drame pour Yuri, c'est que son calvaire va durer. En plus de lui avoir volé son enfance, son intimité, son corps, son adoptant veut aussi effacer sa langue, le coréen.
Après les câlins du matin, après on faisait la toilette vite fait, comme les chats, on n'avait pas le droit de se doucher. Et il me donnait des cours de français. Il prenait un livre, je me souviens des personnages, c'était Rémi et Colette. Donc Rémi et Colette vont à l'école, Rémi et Colette vont jouer dehors, blabla. Moi, je connaissais un peu l'alphabet, même s'il y avait des lettres que je n'arrivais pas à prononcer, le F, le V, des consonnes qui n'existent pas en coréen, quoi. Déjà, Rémi et Colette devient Lémi et Colette. Et là, une claque. Il dit Rémi, Rémi, Rémi. Nous, on dit Lémi, Lémi, Lémi. Une claque. Et il nous interdit de se frotter la joue. Il nous dit reste garde à vous. Ça devient une demi-heure, une heure à répéter la même chose dont on n'a aucune idée de ce que ça veut dire. Et il nous montre les images, les gens, il fallait qu'on devine en français ce que ça voulait dire. Quand il n'arrive pas du tout à nous faire répéter ce qu'il dit, il nous demande de se déshabiller et on se met à genoux devant le radiateur et il pouvait nous laisser comme ça une heure, comme cinq heures. Ça faisait une semaine qu'on était arrivés chez eux, donc ça devait être le 8 ou le 9 juin. J'ai habillé mon frère avec les vêtements qu'on avait portés pendant notre voyage. J'ai pris mon frère et j'ai dit « We go Korea. We no like you. We go back Korea. » Et là, ça fait, je répète ça pendant 30 minutes. Avec nos sacs, genre, on fait signe, on veut retourner dans notre pays. Et là, tous les deux, bon, ils ont compris qu'on n'a pas envie de rester avec eux. Ils commencent à pleurer. Je me suis dit, ils pleurent pour nous rendre coupables. À partir de ce moment-là, je me dis, bon, il y a l'association des amis des enfants du monde qui nous a fait venir. Normalement, quelqu'un devrait venir nous voir. Dès que cette personne arrive, je vais lui dire ce qu'ils nous font vivre. On veut retourner en Corée. On n'est pas orphelin. Et cette visite n'a jamais eu lieu. Ils sont jamais venus nous voir, ils nous ont jamais appelés, pas de courrier, rien. Au bout de 6 mois, l'assistance sociale du village nous rend visite avant que l'adoption soit jugée. Et là, ils nous habillent comme si on allait à la messe, comme un dimanche. Ils sont gentils avec nous pendant une semaine. Pas de coups, pas de punitions, pas de shintok. Oui, parce qu'ils nous appelaient les shintok, on ne savait pas ce que c'était. On leur souriait, quoi. Ils surveillaient de la fenêtre. Elle est arrivée, tenez-vous bien. Sinon, c'est l'avion direct Séoul et... la vie à la rue. Psychologiquement, je pense qu'on était déjà un peu cassés. Parce qu'ils n'ont pas arrêté de nous dire « Vos parents ne voulaient plus de vous. » Et c'est la chose qui me faisait le plus de mal. Et puis vos parents, ta mère c'est une prostituée, ton père vit sous un pont, c'est un mendiant. Toi, si t'étais resté dans ton pays, tu serais devenu comme ta mère, une prostituée. Nous, ils nous ont demandé d'aller jouer dans notre chambre. Bon, Je me disais, est-ce que cette personne va nous sauver ou pas ? Elle ne nous a pas posé une seule question. Elle est partie. J'ai appris le français très rapidement, au bout d'un trimestre. Mon frère a mis 2 ans. Pour moi, apprendre le français, c'était d'avoir de la liberté, de pouvoir dire ce que je veux dire et donner mon opinion, et puis surtout de ne pas me laisser faire par le racisme, la stigmatisation vis-à-vis des Asiatiques. En fait, le racisme, c'est quelque chose que j'ai découvert une fois arrivée à l'école, quand les gosses me faisaient signe que j'avais des yeux bridés et que j'avais la peau jaune, que j'étais asiatique, quoi. Je ne comprenais pas le mot asiatique. Bien sûr, on était au courant que les Français, les Américains, les Coréens sont différents, mais le racisme, c'est pas quelque chose qu'on connaît, quoi. J'ai expliqué à mon frère ce que c'était le racisme. On était différents à leurs yeux parce qu'on était des Asiatiques. Et à partir de ce moment-là, mon frère, il a refusé à dire qu'il était coréen. Et il a refusé à continuer à parler le coréen. De toute façon, nos adoptants nous avaient interdit de parler le coréen. L'ordre, c'était « Vous êtes français et vous n'êtes plus coréen ». J'ai tout fait pour qu'on garde ça avec mon frère. Mon frère, il a dit « Je suis français, je ne suis plus coréen et je ne veux plus parler le coréen ». Il avait beaucoup de mal avec le féminin et le masculin. S'il disait « la poulet », il se prenait une claque. Moi, je lui disais en rentrant de l'école « Dis surtout rien ». S'il te pose des questions, tu dis juste oui ou non. Puis tu fais des phrases très courtes. Sujet-verbe, complément, ou sujet-verbe, c'est tout. Ne rentre pas dans les conjonctions de coordination ou des trucs comme ça que tu n'arrives pas encore à maîtriser. Bien sûr, mon père n'arrêtait pas de lui poser des questions. Il le faisait exprès. Il voulait juste se défouler, quoi. Moi, je défendais mon frère, je le prenais dans mes bras. Il me frappait moi, et moi t'es pas mon père, t'es un violeur, et si mon père savait ce que tu nous fais, il prendra l'avion, il viendra te tuer de ses propres mains. Il disait, bon, pas de dîner jusqu'à ce que vous me demandez pardon. Dans vos chambres, direct, puis on descendait dans notre chambre et mon frère et moi, on pleurait, on disait « on va partir d'ici un jour ». Je sais pas comment, mais je disais « il y a encore 6 ans à tenir ».
Pendant 6 longues années, Yuri va subir les viols, les coups et la torture psychologique de son adoptant. Durant ce calvaire, l'organisme d'adoption reste absent. Personne pour vérifier que l'adoption se déroule correctement, personne pour empêcher la souffrance de Yuli.
J'ai 17 ans, 30 août 91. J'étais en train de dormir et mon père adoptif vient, il essaie de caresser mes cuisses et il remonte vers mon ventre et mes seins. Et là, je repousse la main. Je lui dis, tu peux plus me faire ce que tu m'as fait jusqu'à quand j'avais 14 ans. Et puis là, il me pose des questions parce que la veille, c'était la fête du village. Et comme c'était l'année de mes 18 ans, les conscrits du village m'avaient invité. Et puis, je ne connaissais pas grand monde parce que je n'avais pas le droit de sortir ou avoir des camarades. Je voyais mon père adoptif de l'autre côté de la rue qui me surveillait, qui regardait tout ce que je faisais, à qui je parlais, et j'essayais toujours de rester près d'une fille. Et là, il me demande avec qui t'as couché, avec qui t'as embrassé. Je lui dis, t'es complètement malade, quoi. J'ai embrassé qui je veux, j'ai couché avec qui je veux. Je suis une adulte. En tout cas, je n'ai violé personne. Et là, il me fout une claque, je suis tombée par terre. Et là, je réalise, ça ne peut plus durer. Mon frère n'était pas là, il était parti en vacances à Argelès avec son meilleur ami et sa famille. Et je vais dans la salle de bain, Je me lave le visage, je me regarde, je me trouve horrible. J'ai trop souffert les 7 ans de violence que personne n'est au courant. J'ai trouvé 2 francs dans ma poche. Si bon, je vais partir. J'en profite pendant qu'il est derrière la maison, dans son jardin. Je prends le portail, je cours le plus vite possible. Et j'arrive sur la route, sur une nationale, et là, je fais de l'autostop. Je ne sais pas du tout où est-ce que je vais aller, mais je vais chercher une ville. La ville la plus proche, c'est soit Aurillac ou Rodez. Je choisis Rodez. Un couple me prend, il voit que je suis en pleurs, il me pose quelques questions, il me donne des mouchoirs, il me demande ça va, oui ça va. Le couple était en train de fumer, je leur demande une cigarette, bien sûr, il me donne une cigarette, je ouvre la fenêtre. Et là je sens comme pour la première fois en 7 ans, une liberté, c'est une nouvelle vie qui va commencer pour moi. On arrive à Rodez, il me demande est-ce que tu as un endroit où tu dois aller, ou est-ce qu'on te dépose quelque part, n'importe où en ville. Je leur dis merci et je trouve une cabine téléphonique. J'appelle ma meilleure amie, Bénédicte, à qui j'avais raconté dans une lettre ce que j'avais subi. Et Bénédicte, elle était aussi adoptée. Elle était venue à l'âge de 5 ans et ses parents étaient décédés, ils étaient morts dans un accident de voiture. Et elle avait été élevée par sa grand-mère et sa grand-mère était trop vieille pour pouvoir s'occuper d'elle. Donc la mère de Bénédicte était au courant de ce que j'avais vécu. J'avais 14 ans quand j'avais raconté à Bénédicte ce que mon père adoptif me faisait subir. Et je pensais que la mère de Bénédicte allait réagir, qu'elle appellerait la DAS ou qu'elle le signalerait à la police ou autre. Non, elle n'a rien fait. Et là, je lui demande juste qu'est-ce que je dois faire. Je suis partie, je ne veux plus y retourner, qu'est-ce que je dois faire. Elle m'a dit, cherche une assistance sociale. Je sors de la cabine et à la première personne qui passe, je lui demande... Est-ce que vous connaissez un centre social où je peux trouver une assistance sociale? Vous êtes juste en face. C'est de l'autre côté de la rue. Vous voyez le parc et là, au milieu, vous avez le centre social. Je suis reçue par un homme très grand, très masculin. J'ai eu peur. Et je lui demande, vous avez une assistante sociale femme? Il me dit, ben non, parce qu'on est au mois d'août. Je suis de permanence et je suis seule. C'est impossible de parler à une femme. Il me dit, pas aujourd'hui en tout cas. Là, je commence à pleurer. Je me dis, qu'est-ce que je vais faire? Je lui demande s'il a une cigarette, il me dit oui. On sort et on fume une cigarette ensemble. Il me dit ça va? Je lui dis non, ça va pas du tout. Je sais qu'il faut que je vous parle, mais c'est très difficile parce que vous êtes un homme. Il m'a dit mais d'écouter des histoires difficiles, c'est mon métier. Je fais ça depuis plus de 15 ans. Après la cigarette, on rentre dans son bureau. Je pense que j'ai dû pleurer pendant 10 minutes. J'étais incapable de parler. Je lui dis, donc j'ai été adoptée à l'âge de 11 ans. Mon père adoptif m'a forcé à le branler. Au début, c'était des caresses sur mon sexe, et puis après, c'est devenu des pénétrations digitales pendant 4 ans, assez régulièrement, et je n'arrivais pas du tout à calculer à quel moment ça allait arriver ou pas. En fait, je veux dire, il y a des... Comment on dit quelqu'un qui ferait ça que le lundi matin, par exemple, ou le mardi matin. Et lui, il n'avait pas d'heure. Dès qu'on se retrouvait tout seul dans la maison, j'étais sous la terreur, quoi. Monsieur Meraz me dit « Ok, ça va, stop. Tu m'en as dit assez. J'appelle le juge d'enfant tout de suite, qui va te recevoir aujourd'hui, même s'il est très occupé. Tu ne rentres pas chez tes parents adoptifs. » Là, j'éclate en sanglots. Enfin, quelqu'un me croit. C'est pas possible de ne pas le faire, parce que je veux pas les voir. Il m'a dit, mais je suis obligée de leur dire que tu es ici, et s'ils veulent venir te voir, ils peuvent venir. Et puis, de toute façon, ton père adoptif va devoir passer devant un juge dès ce soir, parce que tu l'accuses de sévices sexuels et de viol. Donc, je dois le mettre au courant. J'entends sa voix quand M. Meraz l'appelle. Je frissonne de frayeur en me disant « Est-ce que c'est possible qu'ils me ramènent ce soir chez eux ?» Pierre Meraz lui avait dit « Elle ne veut pas voir, lui, comme il était policier, il était au courant que la science sociale ne pouvait pas refuser cette demande de me voir. » Il dit « J'arrive tout de suite. » Il a pris la bagnole très rapidement, mais il était là, il était à Rodez en moins de 2 heures. Il est rentré dans la pièce où j'étais. J'ai senti un haut le cœur et tout ce que j'avais enfoui en moi pour pouvoir survivre, les douleurs, les... Il me menace, il me dit « je te ramène ce soir à la maison, on va reparler de ça. Quand même le toupet de m'accuser de n'importe quoi quand j'ai payé 25 000 $ pour te faire sortir de ton orphelinat où t'avais faim. » Pour la première fois, ouais, je lui ai dit « Laisse la porte ouverte. Je veux que tout le monde entende. T'es un violeur. T'es un pédophile et tu nous as battus, t'as cassé mon frère. Moi, t'as pas réussi à me casser. Et je vais porter plainte contre toi quand je vais avoir 18 ans. T'iras en prison. »
Yuri ne va pas retourner chez son adoptant. Elle va se battre, porter plainte en espérant voir son adoptant condamné. Sans preuve, tout repose sur le témoignage de sa mère adoptive et de son frère. Mais les deux vont se ranger du côté de son bourreau. L'affaire est classée sans suite. Alors, Yuri veut comprendre. Pourquoi est-ce qu'elle a été adoptée? Où sont ses parents biologiques? Pourquoi, à 12 ans, est-ce qu'on l'a arrachée de son pays? Comment un pédophile a-t-il pu se voir confier la responsabilité de 2 enfants? Dans le prochain épisode, on suivra Yuri dans cette quête de vérité.